Classique 21. You rock.
Classique 21, soundtrack, avec Laurent Deboeuf.
Troisième heure de soundtrack à l'instant ici. Et là, on était en 1969 avec The Peebles, Seven Horses in the Sky. Et c'est une séquence ici, une spéciale plutôt, que l'on va partager puisqu'on est à l'issue de la semaine de la musique belge. Et donc, déjà pour repartager cette spéciale, c'est Dominique Raguem qui est avec nous. Bonjour Dominique.
Bonjour Laurent.
Et donc là, on va revenir sur l'histoire du rock belge. Alors, je tiens à préciser que ça va être non exhaustif. Parce qu'on a une demi-heure évidemment pour pouvoir vous proposer ça. Si on voulait vraiment rentrer dans les détails, c'est une émission complète. Alors je ne dis pas que ça ne se fera pas, ça se fera certainement, peut-être même cette année, je n'en sais rien. Mais voilà, donc en tout cas l'idée est lancée. Mais pour aujourd'hui, on va se focaliser peut-être davantage sur des grands noms de la scène rock noir, jaune, rouge, bien entendu, avec, bon, ici on l'a entendu à l'instant, The Peebles, Seven Horses in the Sky. C'est un titre qui prouve prouve bien que la culture pop-rock anglo-saxonne s'est invitée rapidement chez les artistes de chez nous.
Oui, c'est vrai qu'ici, on va plutôt s'intéresser ce matin à l'évolution de cette scène rock belge. Alors oui, les 60s, ce sont les premières secousses de cette scène pop-rock belge. En fait, en cette fin des années 60, la Belgique capte les ondes anglaises et sur ces ondes, des sons saturés, des guitares venues de Liverpool et de Londres. Et très vite, la Belgique va en quelque sorte répondre à cette déferlante. Et après le rock and roll, je dirais pur jus de Burt Blanca et son twist, les Kiddiwatch, les Cousins en 1960, ou encore le groupe Shakespeare, notez le jeu de mots. Avec le morceau en 65, Shake It Over, c'est très très style Fab Four. Et puis, justement, en 69, il y a The Pebbles qu'on vient d'entendre, souvent surnommés les Beatles flamands. Alors là, nous avons des riffs secs, des harmonies pop, une urgence presque garage, avec aussi, on vient d'entendre, cette petite touche psychédélique avec ce morceau Seven Horses in the Sky. Et puis, parmi les groupes belges de cette époque, il y a aussi quelques-uns qui parviennent à avoir un succès au niveau international. Exemple avec Wallace Collection, qui surprend tout le monde avec Daydreams, évidemment, tube orchestral, baroque, presque psychédélique, qui traverse les frontières. Wallace Collection, qui par ses autres compositions, peut-être à mon avis plutôt classé dans le registre, j'allais dire, rock progressif.
Ouais, d'accord. Wallace Collection, succès international, ce qui n'est pas le cas pour d'autres groupes qui, malgré un succès dans, dans notre plat pays, ne vont pas vraiment s'exporter, et pourtant, malgré un niveau qui est souvent très élevé.
Oui. Et en cette fin des années 60 et en ce début des 70s, le circuit de distribution des disques est assez limité et demande une bonne logistique, sans compter qu'enregistrer un album coûte à l'époque très très cher, et la Belgique manque aussi de studios avec des consoles high-tech. Un groupe, par exemple, qui apparaît à la même époque plus ou moins que Wallace Collection et qui avait surtout cette démarche de ne pas entrer dans un format commercial, on va dire, et qui, malgré une signature avec un label, label RCA en Belgique, juste pour un an, refusait tout compromis. Et ce groupe qui a su se faire une solide réputation avec un niveau élevé, c'est Kleptomania.
Oui.
Un style plus rugueux, plus underground, plus proche peut-être de l'univers de Black Sabbath, par exemple. Et puis, dans ce groupe, il y avait un chanteur, un certain Lou de Preek, qui, par la suite, connaîtra, lui, vraiment la gloire mondiale avec Two Man Sound. Et puis, Plastic Bertrand, alias Roger Jouret, batteur du groupe punk Hubble Bubble. Et puis, Kleptomania, s'est construit, c'est vrai, début 70s, très rapidement, une solide réputation de scène, ce qui les amène à participer en 1971 à la première émission télévisée pour jeunes, entre guillemets, pour jeunes, de la RTBF, l'émission Pop Shop. C'est vrai que Kleptomania, c'est un agenda bien chargé. Le groupe va même aller jouer au Zaïre. Mais par contre, le porte-monnaie ne se remplit pas, contrairement à aujourd'hui. Ce ne sont pas les concerts qui payent. Avec le pourcentage des managers, la logistique et les autres frais, le groupe joue souvent pour des clopinettes, comme on dit.
Carrément gratuitement.
Gratuitement. Seule la vente des disques peut sauver un groupe. Et c'est le cas. Kleptomania, qui a même été escroqué par un pseudo-producteur hollandais qui leur promettait richesse et gloire, et ce qui explique que très rapidement le groupe va disparaître, et que surtout il ne reste pas grand chose comme matière de cette aventure heavy hard rock 100% belge.
Et Kleptomania, qui a aussi un lien avec un autre groupe qui date aussi de 69, c'est Vacation, parce que le dernier album de Vacation, les paroles ont été écrites par Dominique Bussin, qui avait déjà écrit les paroles pour Kleptomania. Et puis on sait aussi que c'est un groupe qui a été dans le sillage de Jean-Jacques Burnel
aussi, oui.
Voilà, tout à fait. Alors, il y a ici Kleptomania, il y a la descendance, et là, il y a peu de gens qui le savent, il y a Tush, avec un chanteur qui s'appelle Walter de Padua. C'est une scène hard rock belge qui se développe finalement en parallèle à une scène qui était peut-être un petit peu plus orienté rock progressif, et puis des productions genre Genesis ou Supertramp.
Oui, les années 70 arrivent, et avec celles-ci, des projets plus théâtraux, plus ambitieux. C'est le cas avec Gengis Khan, au sein duquel on retrouve, aux côtés du guitariste à la silhouette imposante, Frisois, ceinture noire de karaté. Dit le terrible. C'est d'ailleurs ce qui a donné le nom au groupe, parce qu'il avait une posture tellement imposante, il faisait un peu peur. Et Gengis Khan, voilà, c'était leur univers. Et puis à ses côtés, il y avait un certain Pierre Rapsat, un projet prog-rock, avec cette attitude aussi très importante sur scène. Et les costumes avaient vraiment leur importance et faisaient partie du concept qui se traduit en 71 par l'album Well Cut. Extrait, je vous propose, de cet album de ce groupe Gengis Khan, avec un morceau ici qui s'appelle Hard Working Man.
Hard Working Man pour Gengis Khan avec ce guitariste frisois. On peut encore retrouver des photos de lui. C'est vrai qu'il avait une carrure très très imposante. Dommage que j'aurais bien voulu le connaître, hein, mais bon voilà, c'est une autre époque. En plus, moi à ce moment-là, j'étais encore dans les chaussettes d'Abraham.
Il nous a quitté en 88, c'est mes souvenirs.
Ouais, tout à fait. Et alors avec Pierre Rabsat qui était donc à la basse. Dans ce groupe, hein, donc. Et là, cet extrait, comme on l'avait précisé tout à l'heure, de l'album Wellcut qui était sorti en 1971. Gengis Khan, c'est une aventure qui a finalement tourné court.
Oui, malgré des concerts d'anthologie, notamment à Sydney, où le chapiteau, paraît-il, j'étais pas né, a failli s'effondrer, le groupe se sépare assez rapidement. Certains musiciens vont partir en tournée avec Wallace Collection ou rejoindre justement The Bubbles.
Bubbles, ouais.
Et puis Pierre Rabsat va commencer une carrière solo. Alors, pour l'anecdote, hein, et pour montrer un petit peu le caractère électrique de ce groupe, en 71, Gengis Khan fait la première partie de Slade à Forêt Nationale, et Gengis Khan est tellement époustouflant que les roadies de Slade, pour éviter un flop, hein, pour le groupe anglais, la première partie n'est pas censée voler la vedette, comme on dit, eh bien ils vont s'en prendre au matériel de Gengis Khan pour leur faire arrêter leur prestation. Résultat, une bagarre dans les coulisses, et le manager de Slade, un certain Chas Chandler, l'homme qui a quand même lancé la carrière de Jimi Hendrix, hein, se retrouve avec un œil au beurre noir provoqué par le guitariste Gengis Khan. Il
fallait pas lui souffler dans les branches.
Non, alors, je peux vous dire qu'après cette soirée, le groupe avait été un peu grillé pour un soutien de l'autre côté de la Manche.
Oui, tout à fait. Gengis Khan, groupe proc-rock, c'est un terrain qui va être occupé avec Maestria par un autre grand groupe belge.
Oui. Le rock belge se muscle à cette époque avec Machiavel. Le groupe a fêté récemment son 50e anniversaire, ce qui en fait aujourd'hui l'un des plus vieux groupes rock belges toujours en activité. Machiavel qui a su traverser au fond pas mal de tempêtes et qui a aussi su s'adapter au fil des modes et des tendances. Reconnu par ses pairs comme en 96, lorsque Toots Thielemans, le grand Toots Thielemans, vedette internationale, vient les rejoindre sur scène pour jouer Rope Dancer. Et puis, c'est aussi une nouvelle génération qui a découvert Fly, extrait de New Lines, hein, 45 ans après sa sortie, grâce à une publicité, hein, comme quoi les modes passent et repassent. Les années 80 qui vont être un peu plus compliquées, hein, pour le groupe. Hein, 6 ans entre Breakout et l'album The Cry of Pleasure en 87, 1 an avant la naissance de l'émission qui avait pris le parti de diffuser du rock à l'heure de la messe, celle du batteur et fondateur de Classic 21, Marc Isaïe.
Ah oui, bien sûr.
Et Machiavel qui aborde les années 80, peut-être avec un peu d'hésitation. Enfin, ça, c'est mon point de vue très personnel sur la ligne musicale, j'ai presque dit. Soit aller vers un rock plus heavy, soit plus pop. Et moi, je dirais dans le genre plus pop, belle illustration, hein, de cette aventure, peut-être ces deux tendances, avec un morceau reggae, au fond, de leur répertoire, hein, Over the Hill sur Urban Games en 79, leur 4e album.
Et ce morceau, on va l'écouter.
Classic 21, Soundtrack.
Walking in town, and I can hear them talking just like fools. I can see some men walking in town, and I can hear them talking just like fools. And they just walk in their dreams, and they just go.
Over the Hill à l'instant pour Machiavel, Urban Games. On aurait pu passer des tas de morceaux. Moi, j'avais pensé à notamment Lay Down.
Oui, moi aussi.
Mais bon,
c'est un peu long.
C'est un peu long hein, pour la séquence que l'on partage ce matin. Mais enfin, bref, ce sont des choses encore une fois sur lesquelles nous aurons occasion de revenir, oui, puisque bien. Ici, je le répète encore, c'est non exhaustif. Alors ici, on passe dans les années 80 avec de gros changements dans le paysage musical, et c'est le moins que l'on puisse dire.
Oui, tout bascule. Les guitares se taisent un petit peu. Les machines parlent à ce moment-là. Hein. Effet lancé par les pionniers de Telex, hein, dont le travail sur les synthétiseurs vont même jusqu'à influencer certaines productions de ZZ Top.
Le travail de Dan Laxman, qui sort encore des singles récemment.
Oui, et qui est un, paraît-il, des plus grands collectionneurs de synthétiseurs au monde.
Oui, voilà, tout à fait.
Fan de machines.
Absolument.
Et c'est vrai qu'ils vont influencer notamment les productions de ZZ Top. Hein. Et puis, en même temps, il y a cette Belgique qui devient en quelque sorte la capitale européenne de l'électro-industriel. Franck de K2 invente presque un style, hein, l'électronique body music, avec des rythmes martiaux, séquenceurs froids, voix samplées, c'est dur, mécanique, futuriste, un peu effrayant, de Bruxelles à Berlin. Les clubs vibrent à ce moment-là, vibrent noir, jaune, rouge. On danse sur du Nachtun Nebel, Tue Belgen, Neon Judgment, et puis fin des années 80, sur cette fameuse. Je sais pas si on peut.
Oui.
Parlons-en quand même, mais la techno Made in Belgium et la New Beat.
Jamais compris la différence entre la New Beat et la techno. Hein.
Je vous ferai un cours.
D'accord, ça va. Ok.
La techno, il y a des bonnes choses.
Oui.
New Beat, c'est plus binaire, on va dire ça.
Ouais, bah c'est toute une époque. Moi, j'ai connu ça, j'avais 15 ans. Hein, donc, bon, j'étais quand même un petit peu plus proche du rock. Mais il y a eu l'influence de ça parce que mes potes à l'école, c'était des New Beateux, comme on disait.
Oui, et vous aviez une petite. Un petit symbole
Volkswagen.
De...
Oui,
ah,
voilà.
Dit la marque,
oui, zut, mince.
Avec les shorts cyclistes.
Voilà, effectivement.
Mais cela dit, ça a eu une énorme influence au niveau international. Cependant, hein, quelques groupes belges ont continué à faire du rock et à faire du bon rock et à faire vivre la scène métal, notamment avec FN Guns, ou je dirais dans un genre un peu plus alternatif pour ceux qui s'en souviennent, Agrume, sans oublier le genre punk-funk festif, j'allais dire, avec un groupe comme Allez Allez, hein, qui a tout de même été signé à l'époque par le label Virgin de l'autre côté de la Manche.
Avec Marca, hein, bien entendu. Et ici, bah, on arrive maintenant finalement dans les années 90 avec encore une fois un changement de cap.
Oui, avec la vague grunge, retour aux guitares, c'est un peu l'explosion alternative avec en parallèle le retour aux sources, hein, avec notamment du blues rock, celui de Blue Bot ou encore des Scabs. Mais les années 90, pour moi en tout cas, réintroduisent l'émotion, le mélange des styles. La Belgique devient en quelque sorte un laboratoire sonore. Deus brouille les pistes, hein, hard rock, jazz, noise, poésie urbaine, il y a un peu tout dans Deus. Overphonic qui installe là des atmosphères cinématographiques presque lynchienne, avec des emprunts. Ils vont surfer sur la vague trip-hop parce qu'au départ, Overphonic, c'était quand même le groupe Hoover, simplement.
Oui.
Ils ont dû changer de nom.
Pour les aspirateurs.
Pour la marque.
Ben
voilà. Puisqu'il a repris Too Wiki, signature de Burt Bacharach. Et puis, depuis, ils ont fait une très très belle carrière au niveau international. Et puis, on a aussi Arid, fin des années 90, qui apporte lui de la mélancolie, des grandes balades, quelque chose de très épique. Et puis, on peut dire qu'au cœur de cette nouvelle scène rock basée essentiellement au nord du pays, il y a aussi un ancrage international avec des hits signés par exemple par Kies Choice. Et puis après la vague New Wave de Tissimatic, le trait d'union pour moi qui fait la force entre le nord et le sud du pays, Arnaud, une voix rauque, inimitable, un rythme qui n'appartient qu'à lui, flamand, francophone, anglais, peu importe. Arnaud, il parle avec le langage du cœur, pour moi.
C'est un Européen.
C'est un Européen. Oh putain. Et il devient le bluesman belge, le pont entre toutes les cultures, avec aussi un répertoire à la française, et qui va conquérir à cette époque-là, au milieu des années 90, nos voisins francophones. See you.
Notre Arnaud regretté ici avec Vive ma liberté. On était en 1993 avec cet album qui s'appelle Idiots. Enfin non, qui s'appelle Idiots avant. Je sais pas pourquoi je le dis en anglais. C'est l'habitude, hein, ça. Donc notre Arnaud, évidemment, qu'on ne pouvait pas contourner. Hein. Et maintenant, là, on arrive dans les années 2000. Là, on va dire que c'est une début d'un millénaire qui est peut-être un petit peu plus dans les années exploration.
Oui, exploration, mais aussi, je dirais, dans les années exportation. C'est une génération plus internationale, plus ambitieuse, plus cinématographique. Justement, on va travailler plus sur les textures, hein, et la possibilité de s'exporter est plus facile grâce aux nouveaux moyens de communication, hein. Et je dirais, il y a notamment Internet, évidemment, hein, mais il y a deux écoles plus classiques avec des groupes comme Triggerfingers, hein, ou plus expérimentales comme Girls in Hawaii ou Ginzu, qui débarquent avec des morceaux explosifs et élégants. Presque là aussi hollywoodien, on sent qu'il y a de l'image derrière, des titres qui d'ailleurs ont été utilisés souvent au cinéma et qui justement ont servi pour les lancer dans des tournées au niveau mondial. Alors moi je dirais qu'aujourd'hui le rock belge ne se joue plus à domicile, il s'exporte en 2026. On peut dire que on l'a vu, et Ginzu fait son retour.
Hein. Avec 17 ans après, avec un nouvel album qui va arriver, donc c'est W.O.W.A.
Exactement. Ouais. Vendredi. Et puis avec des dates de concerts qui sont prévues, notamment à La Baie, un album qu'ils ont d'ailleurs été enregistré aux États-Unis, qu'un grand producteur qui a travaillé avec les Red Hot Chili Peppers, avec les Rolling Stones, avec les Dandy Warhols, avec Gorillaz, avec Oasis, enfin bref, du son très très lourd, ce qui prouve que vraiment la Belgique peut s'exporter. Alors, on peut pas parler de tous les groupes parce qu'on les diffuse très souvent sur Classique 21, et puis il y a cette nouvelle scène de ces dernières années, un retour au rock avec, je pense à Oaklane par exemple.
Oaklane, Thomas Frank Hopper, j'en passe des meilleurs parce que il y a tellement de choses. Et chaque semaine, ça aussi avec Classic 21 Underground, je propose aussi des nouveautés. Romano Nervoso, tiens, oui, puisqu'on y pense aussi.
Il y a déjà une très très solide carrière.
Un très très beau palmarès parce qu'ils ont fait quand même pas mal de scènes. Ils ont quand même eu aussi l'occasion de faire la première partie de Johnny Hallyday. C'était à la Citadelle de Namur. Bref, il y a
si longtemps déjà.
Oui, tout à fait. Mais bon, voilà.
On va tous les citer. Et désolé si on vous cite pas, hein, parce que je sais que vous êtes nombreux parmi les artistes de chez nous à nous écouter sur Classique 21. Voilà, je dirais que la scène est en pleine effervescence, et puis surtout elle est décomplexée depuis de nombreuses années, depuis justement le début des années 2000, je dirais, avec des groupes effectivement comme Ginzu ou encore Girls in Hawaii, et puis dans un registre un peu différent, Soul Wax, mais qui eux utilisent des samples, mais qui ont réussi tout de même à avoir cette étiquette belge, et ça veut dire un étiquette. étiquette de qualité.
Ouais. Je pense à Hollywood Porn Stars aussi, qui ont fait leur retour aussi hein, depuis l'année dernière avec là aussi de la nouvelle matière, puisqu'en plus ils étaient avec nous lors du dernier Classic 21 Festival. Voilà, bah écoutez, on va refermer avec Guinzou hein, puisqu'on en parlait justement, et d'autant plus qu'ils sont de retour avec un nouveau single et un nouvel album qui va arriver. Vous en parliez vendredi matin précisément dans les nouveautés de la semaine pour Classic 21. Guinzou avec Out of Control, en vous remerciant bien entendu mon cher Dominique.
Et à dimanche prochain.
À dimanche prochain. Point d'orgue de cette spéciale consacrée au rock belge, ici avec Out of Control et cet album à venir, donc WWA. Et au moment où j'écoutais la chanson, il y a encore des tas d'autres noms qui me sont revenus en tête. Hein. On pense notamment à Clouseau, qui a aussi eu un beau parcours dans les années 90. Such a Noise, avec Alain Pire, qui a aussi multiplié les projets depuis Michel Drucker Experience jusqu'à donc ça, Alain Pire Experience. Et puis des tas de groupes beaucoup plus intéressant. Je pense à Banging Souls, à Black Mirrors, à Réa. Donc ça, c'est un groupe qui vient du nord du pays et qui cartonne absolument. On a parlé de Machiavel, mais Thierry Place avait aussi formé il y a une dizaine d'années un groupe qui s'appelait Tailors of Panama, qui n'a pas duré, mais il y avait vraiment de très très bonnes choses. Mais encore une fois, voilà, ce sont des éléments sur lesquels on pourrait revenir et refaire une spéciale, voire même peut-être une émission complète consacrée au rock belge, parce qu'on a encore une fois vraiment beaucoup de talent dans notre pays.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.